بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما يا كريم ربي زدنا علما يا كريم ربي زدنا علما يا كريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Mes chers frères, il y a deux semaines, on avait commencé à voir la première phase de la da'wa, ce qu'on appelle en arabe ad-da'wa as-sirriya, la prédication secrète qui a duré 3 ans. Et on avait vu progressivement les personnes qui ont accepté l'islam et qui étaient autour du prophète alayhi salat wa salam, avec au tout début les proches, son épouse Ali ibn Abi Talib, Abu Bakr al-Siddiq, et progressivement avec la da'wa d'Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, d'autres personnes ont accepté l'islam jusqu'à ce qu'on arrive à un noyau de 40 sahaba, 40 personnes qui avaient accepté le message de notre prophète alayhi salat wa salam. Ibn Ishaq, qui est vraiment, on va dire, un des plus grands savants de la sirah. On est Ibn Hisham, Ibn Ishaq, ce sont vraiment les piliers dans la connaissance de la biographie du prophète alayhi salat wa salam. Donc je lis ce qu'il écrit, puis des vagues successives de gens, hommes ou femmes, embrassèrent l'islam à tel point que l'islam se répandit à, dans quelle ville? À Mecca. L'islam se répandit à Mecca et que l'on commença à en parler. C'est là que les Quraysh commencent à entendre que dans telle famille, il y a quelqu'un qui a suivi Mohammed. Dans telle famille, il y a deux personnes. Dans le voisinage, dans telle tribu, il y a quelques personnes. C'est là que les Quraysh commencent un peu à s'intéresser et un peu à s'inquiéter sur cette nouvelle religion. Et durant donc, on reste encore dans la période où la da'wa est en secret, le prophète alayhi salat wa salam initiait en secret à la religion les nouveaux convertis. Donc c'était une da'wa qui était très discrète. Et on avait vu la semaine dernière, on avait mentionné ce jeune sahaba qui s'appelait Al-Arqam ibn Al-Arqam radiyallahu anhu. C'était un enfant qui avait 11 ans et il a mis à disposition sa maison, un endroit qui lui appartenait. Et le prophète alayhi salat wa salam s'y rendait à chaque fois qu'il recevait des versets et il enseignait aux sahaba les derniers versets qu'Allah lui avait révélés. On avait vu également qu'après l'interruption de la révélation pendant quelques temps, quand le prophète a reçu de nouveau le wahi, ben là c'était de façon permanente, il n'y a plus jamais eu d'interruption. Donc les versets étaient révélés en quantité, et ce qui était spécifique, on ne va pas ouvrir ce chapitre parce que ça se voit plutôt en tafsir, ce qui était spécifique avec ces versets, makki, hein, les versets qui étaient révélés à Mecca, c'est que les versets étaient très courts. D'ailleurs, par exemple, vous voyez tous les sourates qu'on a de Tabarak al-Ladhi, d'accord ? Non, al-qalam wa ma yasturun et ainsi de suite. On voit c'est des versets qui sont courts. Et ce sont des versets qui sont courts, les mots sont percutants. Les mots sont percutants. Et les versets makkiya, c'était un renouvellement complet, c'était une guidée, c'était un rappel, mais c'était également un réveil pour l'humanité. L'humanité qui était dans le shirk, dans le zina, dans les pieds des péchés, on avait vu comment les Arabes malheureusement étaient avant l'islam, et c'était des personnes qui étaient en quête de sens, mais ils n'avaient pas de repère, ils n'avaient pas de modèle, ils n'avaient pas de vérité, et lorsqu'ils entendaient ces versets, ils voyaient enfin la lumière, ils voyaient enfin un message qui avait un sens, qui était profond et qui touchait leur cœur, et d'autant plus que les Arabes étaient vraiment les spécialistes de la langue arabe, de la langue arabe éloquente, et quand ils entendaient les versets du Coran, ça les touchait encore plus, parce qu'il y avait le contenu qui était vraiment puissant, mais il y avait également le style du Coran qui était quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu, jamais entendu, et qu'ils reconnaissaient que ce n'était pas un niveau accessible pour Al-Bashar, pour l'être humain. Et le contenu, j'ai dit que je n'ouvre pas trop ce sujet parce que ça c'est une thématique qui est très profonde à développer. Là, la différence entre les versets Mecca et les versets de Médina, ce qui distinguait également les versets de Mecca, ça parlait souvent de la mort et ça donnait un sens à la mort. Et ça parlait de la vie après la mort. Chose que les Quraysh et que les Arabes de façon générale n'acceptaient pas. Pour eux, il n'y a pas de vie après la mort. Et les versets Makkiya parlait beaucoup, qui dit vie après la mort, dit Jannah wa Jahannam. Parlait beaucoup de paradis et de l'enfer. Vous savez, quand une personne est dans cet état d'errance, de rafla, d'insouciance, à la recherche de la vérité sans jamais la trouver, et qu'on lui dit que après la mort, tu seras ressuscité, tu seras jugé, et il y aura un Jannah pour ceux qui ont bien agi et un Jahannam pour ceux qui ont mal agi. Ça donne un sens à leur vie, à chaque jour de leur vie, à leurs décisions. C'est là qu'ils réalisent que ils sont là pour un but précis. C'est-à-dire que le message d'Allah touchait les cœurs. Par leur contenu, par la façon que le message arrivait, la beauté des versets, mais aussi également par la noblesse de caractère de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, un rappel pour l'humanité, mais également un réveil pour des cœurs qui étaient dans l'obscurité totale. Et Allah va les enlever. Minadzulumati ila ila nur. Minadzulumati, de l'obscurité vers la lumière. Bien. On va passer maintenant à un autre point. On reste toujours dans la première période de la da'wah. La première action, la première action, amal zahir, action externe que le prophète alayhi salatu wa salam a accompli, c'était la salah. Mais pas la salah comme nous on le connaît, les cinq salahs obligatoires qui ont été révélés lors du voyage nocturne, lors du mi'raj. Non. Au début, Mubarak Fawri rahimahullah explique qu'au tout début de la révélation, lorsque le prophète avait reçu Wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashiyyi wal ibkar, Allah Rabbul 'Izzah avait demandé au prophète alayhi salatu wa sallam de prier. Et Al-Mubarak Fawri explique que c'était deux unités de prière qu'il faisait le matin et deux qu'il faisait le soir. Et pour retrouver le tafsir, subhanallah, c'est Imam al-Tabari Imam al-Qurtubi rahimahullah. Je n'ai pas trouvé référence à cette salah que le prophète accomplissait au début de l'islam, ni d'Ibn Kathir, ni d'un Sa'di, ni d'un Tabari, mais Allama al-Qurtubi rahimahullah, dans son tafsir, a mentionné ce verset et les deux unités de prière que le prophète faisait le matin et qu'il faisait le soir. Mais bien sûr, il se cachait, il ne priait pas ouvertement, il se cachait. Et Mubarak Fawri explique également que dès quand ce verset a été révélé, Jibril alayhi salam a enseigné à notre prophète alayhi salat wa salam comment faire les ablutions, le wudu. Le hadith rapporté par Ibn Majah. Petite anecdote, le prophète alayhi salat wa salam une fois priait dans un endroit éloigné du centre-ville de la ville de Mecca, avec quelques sahabas, et là Abu Talib, on avait cité ça vendredi au Latanier, et là Abu Talib a vu le prophète prier, et les arabes ne connaissaient pas cette façon de prier, ils ne priaient pas cette position debout, la génuflexion, la prosternation. Abu Talib, qui était l'oncle du prophète alayhi salat wa salam, est-ce qu'Abu Talib avait déjà accepté l'islam? Non, il n'acceptera jamais l'islam. Et on verra tellement d'anecdotes concernant la bonté, la gentillesse d'Abu Talib qui nous fait réaliser que la hidayah, elle est dans les mains d'Allah. Et que nous devons nous estimer heureux d'avoir la foi. Parce qu'on n'a pas fait 1% de ce qu'Abu Talib a fait pour son neveu, alayhi salatu wassalam. Comment il était proche de lui. On va voir dans un instant comment il prenait sa défense devant Abu Lahab, devant les pires des Quraysh. Et nous, on n'a rien fait. Mais Allah nous a donné la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est-à-dire qu'il faut être capable de relativiser et ne pas voir les choses de l'autre sens. Il y a des gens qui aiment philosopher. Oui, mais Dieu a donné la guidée, mais si cette personne, ainsi de suite. Ne te pose pas mille et une questions. Telle personne, oui, il est mort, il n'était pas musulman, mais tout ce qu'il a fait dans sa vie, on ne peut pas penser que. Qui t'a demandé de penser que? Est-ce que quelqu'un t'a demandé de penser pour les autres? Allah te demande wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin bas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li ya'budun. Allah t'a demandé de consacrer ta vie à son ibada, pas de philosopher, c'est pas à toi d'essayer de comprendre tout ce qui se passe dans l'humanité. C'est pas de tes mains, et heureusement, c'est pas de nos mains. Si c'était nous qui devions gérer l'humanité, il n'y a même pas besoin d'Adjal ni de Gog et Magog, c'est bon, c'est plié. Ça, c'est Allah son travail. Et donc, plutôt que de dire, oui, telle personne, on ne peut pas dire qu'il est égaré parce que dans sa vie, il a fait ça, il a fait ça, regarde plutôt toi. Tu es né avec Kalima, avec Tawhid, ou alors durant ta vie, tu as lu le Shahadat Tawhid. Remercie ton Seigneur, estime, réalise que tu n'es pas forcément digne d'avoir ça, ce trésor. C'est bien qu'Allah t'a honoré, a décidé de t'accorder ce bienfait. Donc remercie ton Seigneur et pose ton front sur le sol jusqu'à la mort. Et essaie de partager cette lumière à d'autres personnes qui ne l'ont pas eu. C'est comme ça que le musulman voit les choses. Pas de façon détournée. Je ferme cette petite parenthèse. Donc oui, j'ai pas complété. Abu Talib a vu le prophète alayhi salat wa salam prier avec quelques sahaba. Il est parti voir al-Nabi alayhi salam. Il a dit, oh mon neveu. Je retrouve, c'est où? Il lui a demandé, c'est quoi? Explication, c'est quoi ce gestuel? Le prophète alayhi salat wa salam expliqua à son oncle. Le prophète salam avait un respect. La ilaha illallah. Le respect que le prophète alayhi salat wa salam avait pour les anciens. Même les anciens qui sont égarés. Le prophète n'a jamais été virulent. Le prophète n'a jamais été, excusez-moi, j'ai même pas envie d'associer ce mot-là dans une même phrase, il n'a jamais été grossier. Il n'a jamais insulté. Il n'a jamais crié. On n'a jamais entendu le prophète crier. Allah me pardonne, je me suis emporté ce matin avec quelqu'un. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Et là, tu te dis que ben non. C'est pas comme ça, c'est pas le modèle prophétique. D'accord? Le prophète n'a jamais, ne s'est jamais mis en colère pour quelque chose qui lui est propre. Le prophète, par contre, si quelqu'un allait à l'encontre d'un ordre d'Allah, le prophète pouvait s'énerver. Pouvait, mais pour le dîn, pour la hidaya de cette personne. Le prophète, quand, hadith, il est stipulé, كَانَ لَا يَنْتَقِمُ لِنَفْسِهِ Al-intiqam, ça veut dire la vengeance. Le prophète ne s'était jamais vengé pour quelque chose de personnel. Tu touches au dîn, oui. Il y a une réaction, il faut protéger sa ville, les croyants, mais quelque chose de personnel, le prophète ne s'est jamais vengé. Nous, si quelqu'un nous a fait quelque chose, c'est là qu'on retrouve notre mémoire d'éléphant. On oublie plein de choses, mais quand quelqu'un nous a fait du mal, nous, c'est le principe de la vengeance, c'est un plat qui se mange. Complété, c'est pas un hadith bien sûr. La vengeance est un plat qui se mange froid, glacé, congelé, surgelé. Il y en a qui gardent ça un an et demi au congélateur, 5 ans, 6 ans. Et un jour, il défroste son micro-ondes et il te retient ça. Vla. Vous vous rappelez quand Dada est mort ou lavé? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ça, c'est notre faiblesse humaine. Allez, je reviens. On n'a toujours pas complété. Donc, Abu Talib a demandé au prophète qu'est-ce qu'il faisait. Et le prophète, avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour, a dit à son oncle, c'est ce qu'Allah nous a demandé, la prière. Et Abu Talib a dit, je lis ce que Mubarak Fawri a traduit, il les encouragea à se montrer fermes dans leur pratique. Subhanallah. Abu Talib dit au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à ses nouveaux musulmans, restez fermes dans ce que vous faites. Mais intérieurement, iman ne pouvait pas rentrer dans son cœur. Pourquoi? Allah seul le sait. On n'a pas la réponse. On continue. Si vous voulez qu'on parle encore d'Abu Talib, ça va être, il y a des choses magnifiques dans un instant. Les Quraysh furent avertis du commencement de la prédication. Je lis donc le titre de Mubarak Fawri. Donc, dans ces trois premières années de prêche individuelle, les Quraysh entendent, comme on a dit tout à l'heure, que Fulan, a telle tribu, telle famille et tout. Mais au départ, hein, il ne se faisait pas trop de soucis. Parce qu'il y avait d'autres Arabes qui étaient très attachés à la religion d'Ibrahim alayhi salam, donc qui était censé être leur prophète et leur modèle. D'accord ? Comme Amr ibn Nufail, et c'était des gens qui prêchaient, qui invitaient les Arabes à l'adoration de Dieu. Mais le message ne passait pas. Pour eux, c'est un parmi tant d'autres. Ils pensaient que c'était comme Amr ibn Nufail et d'autres qui avaient encore un peu d'attachement à la religion d'Ibrahim alayhi salam et qui prêchaient, mais ça n'avait aucun impact sur la société. Mais là, quand ils voient de plus en plus de reconvertis, ils commencent à se poser des questions. Donc on conclut cette première phase de la da'wa, donc de la discrétion. Je lis ce que Mubarak Faouri dit, que de ces 3 années de propagation, il utilise le terme clandestine, mais c'est peut-être un peu péjoratif, émergea un groupe de croyants. Un groupe de croyants dont l'état d'esprit était fondé sur, allez, je vous simplifie les choses, dans ces 3 années, Allah Rabbul Izzah a accordé au prophète alayhi salat wa sallam des sahaba qui étaient des modèles de ikhlas, de sincérité. Parce que à cette époque, dit la ilaha illallah, c'est mettre ta vie en danger. C'est mettre la vie de ta famille en danger. C'est porter atteinte à la réputation de ta tribu. Et c'est risquer, c'est prendre le risque que ta tribu ne te reconnaisse plus, t'expulse. Et vous savez que, sans revenir vers ce qu'on avait déjà expliqué en introduction, chez les Arabes, le lien tribal était très fort. Même si quelqu'un avait fait quelque chose de mauvais et tout, si ta tribu te protège, personne ne te touche pas. Mais la pire des choses, c'est quand ta tribu te renie, te rejette, qu'on ne le reconnaît plus, il ne fait plus partie de nous. C'était le risque que ces premiers musulmans ont pris en lisant « La ilaha illallah, Muhammadur Rasul ». Donc c'est une génération de mukhlisin, de personnes d'une sincérité que jamais l'humanité ne va connaître un degré de sincérité comme ça par la suite. C'est une génération de croyants qui ont fait des efforts, des sacrifices sur le propre corps pour le dîn. Et on pense bien sûr à Bilal, radiallahu anhu, mais on pense également à Abu Bakr al-Siddiq. Peut-être que ces récits sont cités par Mubarak Faouri, je ne suis pas sûr s'il a tout cité. Hein? Soumaïa, qui était la première femme. Alors, est-ce que Mubarak Faouri cite tout ça? Je ne sais pas. Dans les différents ouvrages de vie des Sahaba, c'est des histoires qu'on connaît. Mais est-ce qu'il y a dedans? Je ne sais pas. On découvrira ensemble. Mais quand on parle de sacrifice sur le fait de souffrir physiquement, on pense également à Abu Bakr al-Siddiq, qui une fois avait été tellement frappé qu'il avait été presque défiguré et qu'on ne pouvait même plus le reconnaître tellement il avait encaissé des coups. C'est une génération qui a fait de grands sacrifices financiers pour ce dîn, et on pense à Uthman ibn Affan, mais avant tout à Abu Bakr al-Siddiq. En fait, là, chaque qualité des sahaba qu'on cite, le leader dedans, c'est toujours Abu Bakr al-Siddiq. En sincérité, en effort, en sacrifice, en patience, et radiallahu anhu. Bien. Le timing est correct ce soir. La deuxième phase de la da'wa, on appelle ça al-da'wa al-jahriya, la da'wa qui est ouverte. D'accord? Allah Rabbul Izzah révèle au prophète alayhi salatu wa salam, enfin il y a deux degrés. Il y a wa anzir ashiratakal aqrabin, et il y a également le verset fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. Ça c'est, on va dire, la deuxième phase dans la prêche qui est ouverte. Notre Seigneur Azza wa Jal demande au prophète alayhi salat wa salam maintenant de prêcher ouvertement. Ashira, c'est, j'ai pas traduit, hein, mets en garde tes parents les plus proches. On peut se dire, oui, mais si c'est les parents les plus proches, c'est tranquille. C'est pas aller dans toute la ville de Makka, c'est avec la famille. Oui, mais on parle de quelle famille là? On parle de la famille de Frassam qui était les plus grands défenseurs des idoles. Abu Lahab, c'est son oncle. On parle donc, le fait de commencer la da'wah avec sa famille, c'était déjà une étape extrêmement complexe et difficile. Parce que le noyau dur du shirk à Makkah, comme on avait vu en introduction, ceux qui étaient les grands défenseurs des idoles, c'était les Quraysh. Et c'est eux que le prophète sallam doit inviter vers l'islam. Et c'est les plus durs, c'est les plus extrémistes, on va dire, dans le shirk. Naam. Mais en même temps que notre Seigneur Azza wa Jal, on va aller un peu plus vite, demande au prophète d'inviter sa famille vers le haq, Allah Azza wa Jal révèle également des versets qui décrivent comment étaient les croyants dans les autres religions qu'Allah avait révélées, et quel fut leur sacrifice, et quelles furent leurs épreuves. pour que les sahaba, ces nouveaux sahaba, prennent conscience de ce qui leur, attend. Que ça ne va pas être quelque chose de simple. Allah nous révèle les versets qui décrivent les peuples avant nous qui ont invité vers le haq, les compagnons de tous les, prophètes qui ont tous connu des difficultés. Pour que ce soit un avertissement pour eux, la mission que vous allez porter, ça va être une mission extrêmement difficile. Mais il faut s'accrocher, y croire. Et il y a également les versets, les histoires des prophètes. Allez, j'emboîte le pas. Je cite le troisième point avant le deuxième. Et à la fin de toutes les histoires des prophètes, il y a toujours « wal 'aqibatu lil muttaqin » qu'en finalité, Allah donne la victoire aux pieux. Et c'est à ça qu'il devait s'accrocher. Que cette mission va être périlleuse et complexe, mais en finalité, si tu as la crainte d'Allah, Allah va t'élever et va t'honorer. Et c'est pareil dans toutes les situations que le croyant vit, dans les épreuves, dans ce que nous devons affronter au quotidien. Même si les épreuves sont complexes, même si sur le plan relationnel avec des gens, c'est pas évident, mais en finalité, non, Allah va t'honorer et t'élever à partir du moment où tu es pieux. C'est pas un grand mot, ça, pieux, hein? C'est un mot en une syllabe en français. Mais at-taqwa, c'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'il nous faut. C'est ce que nous avons besoin. C'est ressentir la présence d'Allah en permanence. Et de cette façon, tu accomplis les bonnes œuvres pour Allah, tu restes éloigné des harams, des péchés pour Allah. Et tu as la pensée permanente d'Allah dans ton cœur. Et c'est ça qui guide tes pas, tes paroles, tes pensées. Et c'est ça qui te permet d'avancer dans la vie. Ça, c'est la taqwa, c'est tout. Donc, on reprend. Il voyait à la fin de l'histoire des prophètes qu'en finalité, Allah donnait toujours, Allah honorait ceux qui étaient pieux. Et dans ces histoires des prophètes, les sahaba, les histoires des prophètes qui étaient révélées, on prend par exemple la sourate Nuh, qui est de le 29e juz, qui est une sourate Makkiya. Les sahaba, ils écoutaient les versets que le prophète recevait, et ils entendaient donc comment Allah avait châtié les gens qui se sont opposés à Nuh. Le châtiment de ceux qui n'ont pas cru au peuple de Aad, de Thamoud, et également ceux qui n'ont pas cru en Ibrahim alayhi salam, le peuple de Lot alayhi salam, de Shu'aib. Et Shu'aib, c'était proche d'eux. C'était, si je ne me trompe pas, le prophète qui était le plus proche géographiquement d'eux, de la péninsule arabe. Et donc, quand ils entendent ces versets, en fait, vous voyez, hein, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, Allah leur demande quelque chose de très compliqué, de très difficile. Aller prêcher aux Quraysh, les pires. À la limite, là, ils s'éloignent de Makkah, ils vont un peu ailleurs, hein, ça va. Mais le noyau dur du shirk, c'est là. C'est les Quraysh. Et c'est eux qu'Allah demande aux sahaba, au prophète sallam, d'aller voir en premier. Mais en même temps qu'Allah leur demande cette mission qui est complexe, Allah révèle l'histoire des prophètes. Un rappel que vous allez connaître des difficultés, mais il faudra rester ferme, sincère et patient. Un rappel aussi qu'en finalité, Allah va élever ceux qui sont pieux. Et un rappel également quels furent les châtiments des peuples qui avaient désobéi. Pour qu'ils aient une vision très claire. Parce que ce qu'ils vont vivre là, ça va à l'encontre de ce que la nature humaine veut et est prêt à accepter. C'est-à-dire, taklif sur taklif, difficulté sur difficulté. Mais on les affronte et on sait comment Allah agit avec ses créatures, ce qu'on appelle la sunnatullah, comment Allah agit. Donc, voilà le cadre, le contexte de lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit ce message d'ouverture de la da'wah. Mubarak Fawri explique que le Prophète Sam reçoit donc ce verset et il décide d'appeler des membres de sa tribu parmi les Banu Hashim, mais également des Banu Al-Muttalib et des Banu Al-Muttalib Ibn Abdelmanaf. Au total, il y avait 45 personnes. 45 personnes, ce qu'on appelait avant des dignitaires, des nobles, les gens qui étaient les plus respectés à Makkah. Le prophète alayhi salatu wassalam réunit ces personnes. Je retrouve le passage, oui. Et donc je lis, Mubarak va dire, en tout il y avait 45 hommes, Abu Lahab prit les devants et le prophète les réunit. Abu Lahab, il savait déjà c'était quoi la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, on est dans une phase où les Quraysh sont déjà aigris. Mais il n'y a pas eu d'affrontement encore. Il n'y a pas eu l'occasion de dire ces choses-là. Et donc, le Prophète réunit sa famille avant même que le Prophète prenne la parole pour expliquer ce qu'il a expliqué. C'est Abu Lahab qui prend les devants. Donc, c'est très difficile. Et Abu Lahab étant son oncle, qui a un respect, c'est un ancien qui est connu de toute la Mecque, très complexe. Il dit à Muhammad, tes oncles et tes cousins sont là. Parle donc et détourne-toi de l'apostasie. Ce qu'il appelait l'apostasie, c'est le fait de ne plus croire à la religion de leurs ancêtres. Et sache, je lis ce qu'Abu Lahab avait dit, et sache que les tiens, c'est-à-dire toi et les quelques croyants qui sont avec toi, ne sont pas en mesure de résister au reste des Arabes. Il lui fait comprendre d'emblée que si vous résistez, on va vous exterminer. Si tu t'obstines dans tes résolutions, il s'adresse au Prophète, si tu t'obstines dans cette nouvelle religion, ben, il est mieux que c'est ta propre famille qui t'empêche d'avancer dans cette voie avant que l'ensemble des Quraysh s'en prennent à toi. Et avec le soutien de toute la péninsule arabe pour éteindre complètement ce que tu essaies de propager. Et il conclut, c'est des paroles très dures tout ça, hein? Qui peut encaisser ça? Vous invitez des gens, et la première personne qui prend la parole sans vous demander autorisation, c'est quelqu'un qui vous dit des choses aussi crues, et il met le doigt exactement là où ça fait mal, il dit exactement les paroles les plus blessantes. Et Abu Lahab conclut, en vérité, ô Muhammad, je n'ai jamais vu quelqu'un qui ait attiré plus de malheur que toi sur les siens. Il a dit, tu es une calamité pour ta tribu, pour les Quraysh. J'ai jamais vu quelqu'un attirer autant de problèmes pour sa famille que toi, Muhammad, ce que tu es en train de faire. Et Mubarak Fouri dit que le prophète alayhi salat wa salam garda le silence lors de cette réunion. Et c'est là que moi je me pose la question. Je nous pose la question, comment aurait-on réagi? Quelqu'un vous agresse comme ça verbalement? Hein? M'a entendu un gros mot mauricien? Est-ce que c'est ta réaction humaine qui prend le dessus? Là, le prophète alayhi salat wa salam a été d'une patience, une telle patience, que pour lui, la priorité, c'est la risala, la da'wa. La priorité, c'est la mission. C'est pas mon ego, mon nafs, mon honneur. C'est pas qu'on m'a agressé, je dois répondre, répliquer, pour pas qu'il croie que je suis faible, parce que... Non. Il a mis sa personne de côté. C'est un exemple de tezkiya aussi, pour ça, celle-là. C'est notre modèle en purification intérieure. Il a mis sa personne de côté parce que sa priorité, c'était la da'wa. Allah ne lui a pas demandé de régler les comptes, mais de faire passer le message. Et en finalité, la guider, elle est dans les mains d'Allah. Ce message touchera les cœurs pour qui Allah a prédestiné la hidayah. On termine. Deuxième anecdote, le prophète alayhi salat wa salam avait invité sa famille pour un repas, cette fois-ci. Et il a commencé le repas par un discours. Le discours, c'est un khutbah. Vous savez, les khutbahs qu'on... D'accord ? Nahmaduhu et tout, le khutbah qu'on connaît. Je témoigne qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah. Et le prophète m'a dit que... Et je jure, on va vers le message. Je vous promets qu'Allah m'a choisi comme étant messager pour vous et pour l'humanité en général. Le prophète leur a fait un rappel sur la mort, sur la résurrection, et que vous serez certes comptable de vos actes, puis ce sera le paradis ou l'enfer à jamais. Donc, le rappel de base, il a fait à sa famille. Et là, c'est Abu Talib qui a pris la parole. Son oncle, Abu Talib, qui a pris son oncle préféré, celui qu'il aimait et qu'il a élevé aussi. Abu Talib a pris la parole et a dit, « Oh Muhammad, nous aimerions tant te soutenir. Nous sommes réceptifs à ton conseil. » Et nous croyons en ta sincérité. » Abu Talib était convaincu. Et Abu Talib dit, « Oh Muhammad, moi, Abu Talib, je suis l'un de tes proches parents. que tu as appelé avec les autres membres de la famille, et j'ai toujours été le premier parmi eux à répondre favorablement à tes attentes. Ô Mohammed, c'est trop beau ce qu'il va dire. Agis donc, c'est trop beau, ça me donne des frissons. Agis donc selon les commandements que tu as reçus de ton Seigneur. Et dis par Allah, les Arabes juraient toujours par Allah. Dis par Allah, je te protégerai, je te défendrai. Mais moi, Abu Talib, je ne peux pas abandonner la religion d'Abdul Muttalib. Je ne peux pas abandonner la religion de Abdul Muttalib. Vous avez compris? Je vais prendre ta défense. Tant que je serai vivant, je serai à tes côtés, je vais te protéger. Et sache que je t'aime et je crois en toi. Mais je ne pourrai jamais quitter la religion de mes ancêtres, Abdul Muttalib. En même temps, il montre son amour pour son neveu, alayhi salatu wassalam, mais en même temps qu'il est du côté des Quraysh dans ses croyances. On continue. Et là, Abu Lahab a encore lui. Non, mais il a bien mérité Tabbat Yada quand même, non? Ah, il a bien mérité Tabbat Yada, Abu Lahab, son madame aussi, hein? Son madame, les cités où? Marna anhuma luhuma kasab, sayasla naran dhat lahab, ah, wa imra'atuhu. Hamalatel, Hatta. Porteuse de bois. Il l'a bien mérité. Parce que là, de ce majlis aussi, après qu'Abu Talib, qui était le plus respecté, hein, il a dit ça, Abu Lahab a dit, maintenant, il interpelle Abu Talib. Il dit, je jure par Dieu que ton soutien envers lui est une très mauvaise chose. Abu Talib, tu dois l'arrêter tout de suite. Sinon, c'est les autres qui vont le faire. C'est les autres qui vont le bloquer. Et quand Abu Talib entend ça de la part de Abu Lahab, qui est un dignitaire comme lui, Abu Talib répond, vous voyez comment il était. En fait, Allah a mis Abu Talib dans la vie du prophète sallam pour ça. Abu Talib donc a répondu à Abu Lahab, je jure par Allah que je le protégerai aussi longtemps que je serai en vie. Malgré les menaces d'Abu Talib, malgré les menaces d'Abu Lahab, Abu Talib persiste et dit que je serai toujours là pour mon neveu alayhi salatu wassalam tant que je serai en vie. Voilà donc deux anecdotes et les premiers retours négatifs que le Prophète sallam reçoit de cette mission. Et il n'y a rien de pire et de plus difficile que d'être rejeté et critiqué par sa propre. Ça fait mal, ça. Ça fait mal. Que des étrangers, entre guillemets, croient en toi, mais que ta propre famille te considère comme un imposteur, c'est quelque chose qui a fait très mal au prophète, alayhi salat. On va s'arrêter là ce soir, inshallah. La prochaine fois, on va voir un autre point où la da'wah, elle prend une autre dimension encore. C'est quand le prophète, alayhi salat wa salam, va monter sur la montagne de Safa. On connaît, non? Où il va prêcher, et encore Abu Lahab, qui va lui dire, c'est juste pour ça que tu nous as réunis, d'accord? Donc ça, on a besoin un peu de temps pour développer ça, on verra Inch'Allah la prochaine fois, qu'Allah Azza wa Jalla nous donne la compréhension, et que l'amour du Prophète pénètre nos cœurs. Si vous me permettez une petite anecdote, Alhamdulillah, nos Hujjaj sont en route, personne n'est arrivé encore, hein, à Makkah ou Madina. Là, ils sont à Dubaï et ça va être, ils vont atterrir mercredi. Ils arrivent à Madina, alhamdulillah. D'autres groupes ont quitté ce soir, aujourd'hui, et d'autres vont quitter dans quelques jours. J'aime vous raconter l'histoire, l'anecdote, enfin l'incident qui s'est passé cette année de la saison de Hajj. Un ami très proche, pour qui j'ai beaucoup de muhabba, beaucoup d'estime, il a eu un problème avec son visa de Hajj. Je vous épargne les détails. Un problème qui fait que là, il n'avait pas de visa en fait. Il y a un problème très complexe. Il devait voyager lundi matin. Samedi à 16h, il n'a toujours pas de visa. Ses valises sont bouclées, tout est prêt, il a pris ses congés, c'est-à-dire qu'il est à moins de 48 heures du départ et il ne sait toujours pas si dans un jour et demi, il est en route vers Makkah Madina ou il reste à La Réunion. des épreuves très compliquées à gérer. Sur le plan émotionnel, psychologique, c'est très lourd, très difficile. Par la grâce d'Allah, il y a eu des démarches, des interventions, il y a des choses qui ont été faites, alhamdoulilah. Et en finalité, on sait que le hajj, c'est une invitation qui vient d'Allah. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de congé, ce n'est pas une question de renommée, telle personne, lui, il va au hajj. Non, c'est Allah qui invite. Et alhamdoulilah, son dossier s'est débloqué samedi vers 17h. Et là, avec beaucoup d'émotion, avec énormément d'émotion, ce sont des grandes épreuves, ça. En fait, Allah n'éprouve jamais une personne au-delà de sa capacité, de ses limites. Et quand Allah aime un serviteur, Allah l'éprouve. Et qui étaient les gens les plus éprouvés? Les prophètes. Ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Les gens les plus éprouvés, c'étaient les prophètes. En fait, la règle, c'est plus tu as l'amour d'Allah dans ton cœur, plus tu as la piété, les épreuves seront plus corsées et plus complexes. Parce que la récompense va dépendre de l'intensité de l'épreuve. Et plus tu avances dans l'épreuve, ça devient de plus en plus difficile. C'est comme un entonnoir à un moment donné. Le problème avait commencé une semaine avant. Une semaine avant, on se dit que non, c'est bon, on va régler ça. 6 jours, 5 jours, 4 jours, il reste pour le hajj, 3 jours pour le départ. Là, on rentre dans un entonnoir. On se dit qu'il n'y a plus d'issue. Mais je disais à cette personne tout le temps, ne perds jamais espoir. Garde un husnu dhanni billah, une pensée positive sur ton Seigneur, et sache que ça, c'est une grande épreuve. Quand Allah t'éprouve jusqu'au bout comme ça, hein, c'est que il y a quelque chose pour toi. Et j'ai dit que quand tu auras ton visa et que tu vas aller au hajj, tu vas faire encore plus ce qu'on appelle, ce qu'on dit, l'expression faire encore plus qadar. Tu vas donner encore plus d'importance et tu vas encore mieux apprécier ce hajj, parce que ce hajj ne vient pas de ta poche. Ta poche, c'est pas ça qui t'a amené. Tu vois bien qu'un problème administratif, il y avait une faute dans son nom. Le visa était sorti, le nom était, ne correspondait pas au passeport. Donc c'est un problème, ça. Donc il fallait annuler le visa, et puis bref, ça passe par 2 ministères différents, les affaires étrangères, et puis qui envoie au ministère de Hajj et tout. C'est Allah qui t'emmène. Je dis, garde confiance, ne baisse jamais les bras, multiplie les douas, sadaqa, garde ta confiance en Allah, et sache qu'en finalité, Allah va t'accorder. Et Allah a accordé. Et moi, j'appelle ce genre d'épreuve, j'appelle ça une leçon de vie. Une leçon de vie. À partir de ce genre, peut-être que chacun d'entre nous, on a déjà vécu ce genre d'épreuve. Une épreuve parmi tant d'autres qui nous a touchés et qui nous a donc éprouvés jusqu'à la dernière minute. Et à la dernière minute, Allah envoie son aide. C'est pour que tu comprennes durant toute ta vie que tu dois garder confiance en ton Seigneur. Même si sur le papier, tout est contre toi. Le temps, et ainsi de suite et tout, ça ne va pas le faire. Mais si Allah décide d'accorder ce qu'il veut en bien pour toi, Allah va te le donner avec ou sans intermédiaire. Qu'Allah nous permet de comprendre la vie de cette façon et qu'Allah nous accorde khayr ad-dunya wa l'akhirah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil izzati.